Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. Deuxième partie de l'entrevue avec Nino à la ferme de Salelles pour une discussion à bâton rompu autour d'une tasse de café bien chaud. Bon, bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter vite fait, s'il te plaît?
Ouais, donc moi, Nino Fios, je suis éleveur sur la commune de Saint-Isère, dans le hameau de Salelles. Voilà, on travaille à plusieurs sur une ferme où on produit du lait de brebis, quelques agneaux et du pain.
Et du pain. Donc vous êtes en GAEC?
Voilà, exactement.
On est en... Ça veut dire quoi, GAEC?
Alors, GAEC, c'est groupement d'exploitation... Groupement agricole d'exploitation en commun.
D'accord.
Voilà, c'est ça.
Okay.
Et du coup, en fait, c'est le nom de une structure juridique. Hein. Donc, on est trois associés dans ce GAEC.
Mm-hmm.
Léa, Ghislain et moi. Et on a aussi un salarié qui fait 4 jours semaine et un apprenti.
Vous êtes bien nombreux.
Ouais, on est 5 personnes et pour un peu plus de 4 et demi temps plein, quoi.
Tout, d'accord. Voilà. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là?
Donc moi, je suis installé sur la ferme depuis 2010, donc ça fait 10 ans que je suis agriculteur à titre principal, on appelle.
Ouais.
Et avant ça, j'ai bossé 3 ans sur la ferme avant de m'installer, mmh, en tant que stagiaire d'abord, puis salarié, puis ensuite installé, quoi.
D'accord. Et la structure de la ferme, c'est-à-dire les employés, tout ça, ça a évolué depuis que tu y es, toi ?
Oui, oui, oui. Au départ, quand je suis arrivé sur la ferme, on était 2, donc avec l'ancien propriétaire de la ferme.
Mmh.
Je me suis associé avec lui, donc... un GAEC à 2, pas de salarié, rien. On avait une plus petite structure.
Mmh.
Et en fait, en 2012, on a perdu une partie des terres qu'on avait, quoi. Et du coup, on a cherché pour les remplacer, parce que déjà qu'on avait une petite structure pour vivre à 2, c'était pas évident. Et en fait, en cherchant des terres, on a trouvé un associé. Et du coup, on s'est associé avec un voisin, donc on a mis les 2 structures ensemble, et donc on s'est retrouvé à 3, et voilà, et la continuité, là, maintenant, elle est de ça, avec toujours cette structure qui s'est faite à ce moment-là. Mes 2 associés que j'avais, un a pris sa retraite et un, malheureusement, est décédé, et donc, du coup, ils ont été remplacés maintenant par Léa Ghislain. Et en fait, au départ, j'étais technicien du son... en radio et dans des festoches, à monter des sonos, etc.
Notamment à Radio Scientifique.
Exactement, ouais, j'ai fait 2 ans là-bas.
Uh-huh.
Et en fait, je vivais pas loin de la ferme de Salelles, quoi. Et en fait, j'ai commencé à filer des coups de main à la ferme, etc. Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis dit, tiens, mais en fait, j'en ferais bien mon métier, ça me plaît, ça me parle. Et puis voilà, les rencontres humaines avec les gens aussi sur place, enfin voilà, tout ça a fait que j'ai eu envie de m'installer. Donc je suis retourné à l'école pour me former parce que j'avais aucune notion agricole, quoi. Et après, c'est mon ancien associé, là, Alain Soulier, qui m'a appris le métier au quotidien.
Ça se pratique.
Ah oui, oui, ouais. Parce que bon, à l'école, il y a des choses très bien que tu apprends, mais après... moi, je me suis senti à l'aise sur la ferme à la 3e année, quoi. Je veux dire, première année, tu chuis, en gros, tu apprends. Deuxième année, tu commences à faire des choses. Et troisième année, tu commences à pouvoir à peu près prendre des décisions. Et parce que tu sais que... Parce que voilà, on est vraiment sur des cycles dans l'agriculture où nous, au mois de janvier, il y a l'agnelage. Ensuite, vous avez des semis. Ensuite, vous faites des foins. Ensuite... Et en fait... les mois sont... Les journées de travail, selon le moment de l'année, n'ont vraiment rien à voir.
Quoi. D'accord, ouais.
Donc, avant d'avoir fait, j'ai envie de dire, 2 tours de pendule, 2 tours annuels, quoi, c'est compliqué de savoir qu'à ce moment-là de l'année, il faut faire ça, parce que dans 2 mois, il faudra faire ça, etc., etc.
Ouais, il faut pouvoir anticiper.
Exactement. Ouais. Et vous voyez, quand on sème... je prends un exemple. Quand on sème une céréale au mois d'octobre, c'est pour la récolter au mois de juillet. Ben, tout ça, ça, en fait, c'est que de l'anticipation, l'agriculture. Ouais. C'est que de la prévoir, anticiper. Voilà, quand on fait un semis de luzerne, c'est pour que sur un champ, il va rester en place 5-6 ans. Donc, faut pas le faire n'importe où, faut pas le faire à un endroit où derrière tu vas vouloir faire des céréales, etc.
Ah, d'accord.
Bon, mais rien que tout ça, et puis pareil sur le troupeau, comprendre le cycle, le moment où on traite, parce qu'en brebis, il y a une période de l'année où il n'y a pas de traite, hein, les brebis sont pas traites 365 jours par an. Donc voilà, tout ça, en fait, pour l'appréhender et pouvoir être à l'aise à pouvoir prendre des décisions, moi je dis il faut 3 ans, quoi.
Il faut mettre les mains dedans pendant 3 ans.
Ouais.
Et lorsque vous êtes passé en GAEC, tu as bénéficié d'une aide particulière ?
Alors moi, à l'installation, quand je me suis installé, j'ai bénéficié d'aides à l'installation, qu'on appelle. Donc c'est des aides européennes, une DGA notamment, et des prêts, on va dire, à des taux intéressants, quoi.
Et une aide technique ? T'as eu ça par,
Des
assos
Oui, alors la ferme est... On va dire, essayer de s'entourer de partenaires, quoi, le plus possible. Mmh. Et du coup, nous, on travaille beaucoup avec une association qui s'appelle l'AVEM, qui est une association d'éleveurs qui salarient des vétérinaires. Et donc, en fait, ça permet que les vétérinaires, ils soient pas, libéraux. Eux, ils ont toujours le même salaire, quoi, que tes bêtes soient malades ou pas, quoi. C'est un peu comme une mutuelle. C'est-à-dire qu'on paye toujours la même somme tous les ans, en fonction du nombre de brebis qu'on a. Et si on a un problème que le véto doit venir 10 fois, c'est pas plus cher. Voilà. Et c'est un peu comme une mutuelle, en fait.
Ouais.
Et en fait, cet organisme-là fait aussi beaucoup de formations pour ses éleveurs. Donc moi, les 5-6 premières années, j'ai fait que ça, quoi. Des formations pour compléter mon savoir. Puis c'était intéressant, parce qu'il y a des échanges avec d'autres éleveurs, etc. Donc c'est vrai que... Ouais, j'ai beaucoup fait ça. Après, on est aussi suivi par un organisme qui nous fait du contrôle laitier, donc pour savoir un peu où en sont nos bêtes au niveau de la production laitière, au niveau de la qualité du lait. Et donc, nous, on est fermiers, donc locataires de terres de lien sur l'ensemble de la ferme, que ce soit les terres ou les bâtiments d'élevage.
D'accord. Tu as l'usufruit des terres de terres de lien.
Alors, c'est pas l'usufruit, le nom exact, c'est un fermage.
Donc ah oui, c'est un fermage.
Voilà. Donc, on est locataire. Les 3 associés du GAEC, on est ensemble sur le bail. Et on loue à terre de lien.
Tu verses une rente
C'est pas une rente, c'est une location.
Ouais,
comme quand tu loues un appart, quoi.
Ok.
Et nous, ça nous va, ça, parce qu'en fait, c'est quand même moins cher pour nous de louer. Que si on avait dû acheter, l'emprunt à faire aurait été énorme. Quoi. Et là, on n'aurait pas pu. C'était vraiment compliqué.
Ouais.
Nous, on est tous les trois associés, on n'est pas du milieu agricole. Et donc, on n'a pas hérité d'une ferme, etc. Et donc, s'il avait fallu acheter ce foncier, l'endettement aurait été énorme. Là, l'avantage, c'est qu'on paye un fermage, on va dire raisonnable, qui nous permet de vivre, quoi. Et sans avoir cette épée de Damoclès d'un énorme emprunt sur la tête. Voilà. Et ça va perdurer comme ça. Et nous, soit parce qu'on arrête notre activité, soit parce qu'on prend notre retraite un jour, derrière, il y a une autre personne qui peut s'installer et qui a accès à ce foncier par le fermage, quoi.
Et donc, il passera par terre de lien. Est-ce qu'il aura accès aux habitants ou il a juste droit au... À l'outil de travail.
Voilà, alors ce qui appartient à Terre de Liens, nous, sur la ferme, c'est les terres et les bâtiments agricoles. Donc tout ce qui est lié à l'activité. Après, moi, je suis propriétaire de ma maison qui est un peu excentrée. Mes associés aussi ont une maison. Voilà, après, chacun, on a nos vies, quoi, nos maisons, voilà. Mais par contre, c'est ce qui sert à l'activité qui est en location.
Ta relation avec les brebis ? Parce que souvent, c'est quelque chose de... Il y en a, ils sont très, très attachés à leurs brebis, je veux dire. Le jour où ils vendent, ils ont les larmes aux yeux.
Ah bah oui, bah de toute façon. Enfin, je veux dire, à un moment, je pense que quand tu fais ce métier d'éleveur, t'aimes tes bêtes. Enfin, je veux dire, c'est... Sinon, faut pas faire ce boulot, en fait, parce que c'est quand même tous les jours. C'est le dimanche, c'est les jours fériés, c'est le 1er janvier, c'est, enfin voilà, hein, je veux dire, donc, ben ouais, alors après, nous, en étant à 5, ça nous permet d'avoir quand même des jours de repos, des choses comme ça, ou prendre des vacances, mais quand même, l'astreinte d'un élevage, c'est quelque chose que si tu n'aimes pas ça profondément ancré en toi, tu le fais pas, quoi. Enfin, ou en tout cas, tu tiens pas longtemps.
Ouais, ça pèse trop.
Ah oui, oui, oui. Donc forcément... les bêtes, on y est très attaché, c'est évident. Moi, j'aime savoir qu'elles sont bien, j'aime savoir que... Après, c'est du feeling, tout ça, hein, parce qu'elles ne me répondent pas. Hein. Mais voilà, il y a des choses où je vois bien. Quand, voilà, après un hivernage, donc une partie d'hiver où elles restent dedans, parce qu'il n'y a plus d'herbe, le temps est mauvais, etc., donc on leur donne du foin... au printemps, quand on les sort le premier jour, je sais pas, on voit les bêtes qui sont bien. Ouais. C'est-à-dire, elles sautent partout, elles courent, elles se dégourdissent les jambes. Ouais. Donc ça, je veux dire, c'est pas, je fais pas d'anthropomorphisme à me dire mes bêtes, je sais pas quoi. Non, concrètement, ça se voit. Ouais. Tu vois. Donc on le ressent quand même, les choses. Et nous, on essaie que nos bêtes soient bien. Voilà. Ouais. C'est notre but. Et de toute façon, après, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est qu'elle soit bien. Et derrière, ben, elle nous le rend en nous faisant du lait et qu'on puisse en vivre. En fait, c'est forcément un échange. Voilà, moi, je crois pas au truc où... À un moment, si tu t'es bête, elles sont pas bien, elles te feront... Il y aura des problèmes sur le lait, il y aura des choses... Enfin, voilà, c'est un tout, quoi.
Bon, et donc, depuis 10 ans que tu fais ce métier-là, tu en vis correctement ?
Oui, oui, on a la chance d'en vivre décemment. Moi, j'ai pas de soucis à dire combien je gagne. Hein. Alors, nous, c'est à l'année, hein, puisque donc on n'est pas salarié, hein, les associés. En gros, on se paye avec ce qui reste à la fin, hein, sur une entreprise, c'est comme ça. Et donc, du coup, les associés, on est entre 18, 20 000, 25 000 euros par an.
D'accord.
Donc, 1 600, 1 700,
ouais, c'est bien.
Voilà, par mois.
Tu peux changer la machine à laver quand elle tombe en panne.
Voilà, c'est possible.
Voilà.
On peut vivre normalement, quoi. Voilà. Après, on n'a pas l'impression de le voler, hein. Ramener au SMIC horaire, on doit y être tout juste. Mais c'est pas grave, hein, en fait. Le tout, déjà, c'est, on n'est pas, comment dire, on n'est pas, pendu, on n'est pas en galère, quoi, d'argent, tout. Enfin, ça va. Après, il faut tout, hein. C'est-à-dire que sur une ferme. Quand on est 5 à travailler sur une structure comme la nôtre, il ne faut pas se louper. Si tu as une mauvaise campagne, tu es vite dans le rouge, quoi. Donc, je veux dire, c'est... Mais parce qu'on a fait le choix d'être nombreux à travailler. Et ça permet, en fait, de jamais avoir une mauvaise campagne, moi, je crois aussi. Enfin, parce qu'en fait, ben, quand tu es assez nombreux, tu es aussi plus lucide sur des choses. Tu prends des décisions à plusieurs. T'es reposé aussi. Enfin voilà, tout ça, ça compte, quoi.
Cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours.
aussi, Nino, je crois savoir que tu es quand même impliqué dans la vie associative, et notamment avec Terre de Liens.
Oui, oui.
J'aimerais que tu expliques un peu à tout le monde, Terre de Liens, c'est quoi, comment ça marche, puis après, éventuellement, comment toi, tu t'y impliques.
Alors, Terre de Liens, c'est un mouvement, en fait, qui permet en fait à des gens pas forcément issus du milieu agricole ou pas, mais en tout cas qui permet à des gens d'accéder au foncier agricole pour pouvoir faire ce beau métier de paysan.
Alors que c'est difficile.
Eh ben c'est très difficile parce que soit c'est très cher à l'achat, soit souvent en fait c'est les gens déjà en place qui vont acheter ou louer des terres qui vont se libérer pour s'agrandir et tout ça. Parce qu'ils sont déjà, en fait, dans le réseau, ils sont déjà... Et donc, du coup, c'est eux qui s'accaparent le plus les terres qui se libèrent. Et Terre de Liens essaye de... En fait, rachète des fermes, à une échelle nationale, hein, c'est sur toute la France, et ces fermes les mettent en location voilà, à des gens comme nous pour faire ce métier de paysan. Et donc, à travers ça... Terre de Liens, comment ils achètent ces fermes? Eh bien, en fait,
avec quel fonds, hein?
Voilà, donc soit avec des dons de particuliers ou d'entreprises ou des gens aussi qui donnent leurs fermes à Terre de Liens, ça existe. Mm-hmm. Et ou sinon ensuite par de la collecte d'épargne. Donc on collecte au niveau de Terre de Liens. Toi, moi, n'importe qui peut, au lieu de placer son argent à la banque que tu sais pas ce qu'il en fait avec, mais même si tu as 3000 euros, voilà, et que souvent les banques, ben, elles financent des groupes pétroliers,
Et BlackRock,
voilà, des choses comme ça, et ben en fait, tu, au lieu de laisser là, que ça serve à rien, tu le places à Terre de Liens. Et Terre de Liens, avec cet argent, en fait, permet d'installer des gens, quoi.
C'est de l'argent que tu peux récupérer.
C'est de l'argent que tu peux récupérer, exactement. Alors, quand tu le mets, tu as un délai où tu dois le laisser. Hein, tu t'engages.
Comme à la banque.
Voilà, où tu t'engages à le laisser. Tu as un crédit d'impôt. Enfin, non, pas un crédit d'impôt, une déduction d'impôt, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, quand on ne paye pas d'impôt, tu n'as rien.
Ouais.
Voilà. Mais pour les gens qui paient des impôts, il y a 25% de la somme que tu places qui est déduite de tes impôts.
D'accord.
Donc, ce qui n'est pas négligeable. Mmh. Et en fait, ensuite, tu t'engages sur une durée à le laisser. Et après cette durée, tu peux récupérer comme une épargne classique.
Et toi, donc, tu as choisi de t'investir dans cette asso?
Ben oui, en fait, moi, j'ai connu l'asso par le fait qu'on avait voulu qu'elle achète la ferme où on se trouve. Mmh. Ben derrière, je me suis dit, mais en fait, nous, on a eu la chance de bénéficier de ça. Enfin, sans ça, ça n'aurait pas du tout été la même installation. Et je ne sais pas d'ailleurs comment ça serait passé. Ou si on aurait pu même, je sais pas, ça je peux pas dire puisque ça s'est fait comme ça.
Ouais.
Mais voilà, et donc, mais en tout cas pour nous, on l'a vécu comme une vraie chance. Et donc moi je me dis, ben derrière, je veux m'impliquer pour que d'autres en fait puissent bénéficier de ce que moi j'ai pu bénéficier, quoi. C'est vraiment le truc. Enfin voilà, je trouve ça exceptionnel que ça existe, donc, ouais. Donc j'ai envie que ça perdure. Et donc je suis beaucoup impliqué à l'échelle régionale.
Occitanie.
Voilà, oui, Occitanie et puis Midi-Pyrénées, on a encore deux structures.
Ah d'accord.
Mais c'est quand même sur Occitanie. Et voilà, je suis l'actuel président de la structure Midi-Pyrénées. Voilà, donc on conseille l'administration depuis plusieurs années.
Ça doit te prendre du temps tout ça.
Ça me prend un petit peu de temps, oui. un petit peu forcément, mais après, ben voilà, c'est aussi agréable. Et...
J'imagine que c'est un métier que tu conseillerais.
Ah oui. Par contre, oui. Clairement, en tout cas, moi, je l'aime. Je prends du plaisir à faire ce boulot. Donc, c'est plus facile de se lever le matin. C'est plus, voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'astreinte avec l'élevage et tout. Si t'aimes pas, c'est pas la peine. Après, ben, quand tu fais de l'élevage, il y a aussi, ou même en fait tout type d'agriculture, parce qu'un maraîcher, c'est pareil. Et à un moment, il y a des pics de travail. Et ça, faut en avoir conscience que moi, je sais que tant que je ferai ce métier, je ne prendrai jamais de vacances au mois de mai-juin, par exemple. C'est un, voilà, point, on le sait.
Trop de boulot.
Mais parce que c'est le moment où on fait les foins, où c'est un moment où on est dépendant de la météo, donc tu ne peux pas choisir. C'est-à-dire, s'il faut faucher le dimanche, tu vas faucher le dimanche. Ça, c'est quelque chose... si tu n'es pas prêt à faire ça, que tu veux, ta petite semaine, ton petit week-end, ton ascension du mois de juin, là, avec tes 5 jours.
Les ponts du mois de mai,
voilà, tout ça. Les ponts du mois de mai, tu fais pas ce métier. Ouais. Et je veux dire, et un maraîcher, c'est pareil. Au printemps, il a à fond de boulot parce qu'il y a tous les semis, tous les machins, tous les. Par contre, au mois de novembre. On a du temps, quoi.
Voilà donc on peut recevoir des journalistes.
Voilà, par exemple, mais je peux... on arrive à prendre des congés un peu au mois d'août. On arrive au début du printemps. Mais voilà, je sais qu'au mois de janvier, février, pendant l'annulage, non. Mais en fait, c'est aussi agréable, moi, je trouve, de... ce qui n'est pas beaucoup le cas dans notre société, d'être un peu connecté aussi avec les saisons, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un travail saisonnier, c'est-à-dire qu'il n'est pas le même quand c'est l'hiver et qu'il pleut, ou quand il fait 40 degrés l'été, ou quand on est à la mi-saison. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un côté, en tout cas, moi, qui me convient totalement, quoi.
Ça fait quelques années que tu es dans le milieu agricole. Et qu'on est dans une période assez particulière, il se passe pas mal de choses autour de l'agriculture. Comment tu vois, toi, l'agriculture dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que tu es partisan de ceux qui disent il y aura les toutes petites fermes et puis il y aura les plus grosses fermes qui vont toujours être plus grosses? Ou est-ce que tu vois un modèle médian
Moi, j'ai envie de te répondre que nous, on est un peu le modèle médian.
Ouais.
C'est-à-dire que... moi, je suis souvent très alternatif pour des conventionnels et je peux être très conventionnel pour des très alternatifs, en fait. C'est-à-dire que dans le sens où on est alternatif, où on est en bio, on a un petit troupeau par rapport au nombre de gens qu'on travaille. On arrive à vivre sur une structure à 5 personnes, alors que pour la même structure, la plupart des gens sont 2, par exemple. Enfin, voilà. Donc là-dessus, on est très alternatif. Après, on a nos côtés très conventionnels. On fait du lait pour Roquefort, tu vois. Et en fait, nous, on a trouvé notre équilibre là-dedans. En fait. Moi, je n'ai pas de leçon à donner. S'il y a quelqu'un qui trouve son équilibre dans une toute petite ferme, qui arrive à vivre avec ça... après, moi, je n'ai pas envie de vivre avec 500 euros par mois. Mmh. Voilà. Et par contre, j'ai pas envie non plus d'avoir une structure énorme qui abîme l'environnement et qui, enfin voilà, en fait, c'est un équilibre. Et après, si je parle plus, là, j'ai parlé de notre ferme, mais si plus globalement, on voit qu'il y a des fermes qui partent vers de l'industrialisation à outrance. Ça existe. Et encore, en France, on est à la bourre là-dessus. Quand on regarde les fermes danoises ou allemandes, c'est encore pire. Et donc ça existe. Et après, effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle un peu un retour à la terre, où il y a beaucoup de petites structures qui se montent et tout ça. Mais les petites structures, elles me gênent pas. Les grosses, un peu plus, dans le sens où... elles attirent beaucoup de pognon européen, et puis surtout elles sont destructrices de l'environnement. C'est ce qui me gêne le plus, en fait.
Mais et toi, dans 20 ans, à ton avis, ça ressemblera à quoi, l'agriculture? Quel chemin elle est en train de prendre?
Elle est quand même clairement en train de se verdir, ça c'est évident. Alors, pas assez vite, pas assez fort, à mon goût, évidemment. Mais quand même, ça existe, je veux dire, moi, j'ai des discussions avec des collègues qui n'étaient pas du tout là-dedans et qui ont quand même... Tout le monde est plus ou moins un petit peu sensibilisé, quand même. Alors, le chemin reste énorme. Hein. Mais ça existe. Après, je ne suis pas Madame Irma. Je ne peux pas... voilà. Après, moi, je me bats. Je me bats pour qu'on aille vers un truc plus vertueux que ce qu'on fait actuellement.
Ouais. Vertueux et qui reste rentable.
Évidemment. Ouais. Il ne faut pas oublier que c'est un métier, en fait. Et que le débat sur, par exemple... la chose qui m'irrisse le plus, c'est par exemple quand quelqu'un va me dire « ce produit, il est trop cher ». Sur un étal ou notamment quand c'est un paysan qui le vend directement, par exemple.
Ouais.
Après, quand c'est une grande surface qui s'est fait sa marge, etc., j'ai pas le même discours. Mais qu'un paysan qui dit, voilà, moi, j'ai besoin de le vendre ce prix-là pour vivre, ça, c'est respectable. Et en fait, On a un peu perdu la notion dans nos sociétés de ce que coûte l'alimentation, parce qu'en fait, elle est beaucoup subventionnée. Mais ce qui est subventionné, c'est l'alimentation dégueulasse, quoi.
L'agro-industrie.
Ouais. Ouais. Et ouais, et ça, faut pas l'oublier. Ouais. Et qu'en fait, une côte de porc, ça vaut pas 2 euros, quoi. Mmh. Voilà. Et que ça, ça vaut ce prix-là, parce que c'est subventionné et qu'on subventionne le pire de l'agriculture.
Le bio aussi, il est subventionné.
Oui, mais quand tu compares, beaucoup moins. Et surtout, si on prenait tous les coûts de l'agriculture destructrice de l'environnement, ben en fait, ça ne devrait pas être ce prix-là. Parce que derrière, tu le payes dans la décontamination de ton eau potable, tu le payes dans tout ça. Et tout ça, c'est des coûts indirects que tu ne prends jamais en compte. Et où tu dis, le bio, il est plus cher. Ouais, mais en fait, si on prenait en compte vraiment le coût de l'alimentaire pas bio, eh bien, il serait beaucoup plus cher, en fait.
Est-ce que le souci, c'est pas qu'on demande à l'agriculture de s'adapter au système économique et pas l'inverse?
Oui.
C'est-à-dire qu'on est sur un système économique qui vire au financier, en plus, maintenant, ouais. Qui est complètement déconnecté de tout. Et c'est aux agriculteurs, c'est à la terre, c'est aux bestiaux et aux plantes à s'adapter à ce système-là. Et donc, tant qu'on réfléchira comme ça, finalement, tout ce que tu demandes, ça n'arrivera pas.
Oui, mais comment dire? Pour moi, on a une chance énorme dans l'agricole, c'est que c'est le plus gros budget européen. Donc, il y a des leviers d'action politique énormes. Oui. Sauf que jusque-là, tous ces leviers d'action sont allés dans un sens. D'industrialisation, d'être de plus en plus gros, etc. Voilà. Et qu'en fait... C'est parce qu'il y a d'autres secteurs où, en fait, tu dis, mais de toute façon, ça se régule tout seul. Et l'agriculture, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le pire dans tout ça, c'est qu'on oriente vers ça, avec ce budget européen, etc. Alors qu'on pourrait, justement, orienter dans un autre sens. C'est ça, c'est pas du tout... C'est une économie administrée, l'agriculture, hein, mais qui est administrée dans le sens du libéralisme et de l'agrandissement.
Voilà, par des bureaucrates.
Et, ouais. Et puis par des normes, puis par des dogmes, par des... Mmh. Moi, je pense concrètement que c'est pensé et que c'est... Comment dire que, qu'il y a des gens qui pensent que c'est ça qu'il faut faire, quoi, ce qui se passe. Parce que, je veux dire, demain, tu choisis de plafonner, par exemple, de dire, à partir de tant d'hectares, ça s'arrête, quoi, les subventions, et on le redistribue beaucoup plus aux petites fermes et tout ça, et déjà, tu changes de modèle. Hein.
Ouais.
C'est rien à faire. Hein. C'est faisable, surtout.
Ouais, c'est juste un décret à faire et à voter.
Ouais. Donc, c'est bien qu'à un moment, la volonté politique n'y est pas. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de notion... Comme on représente plus que 2% de la population, en fait, il y a quelque temps, à Sainte-Afrique, tu prenais quelqu'un, tout le monde savait que pour faire du lait, par exemple, une brebis, elle devait faire un agneau. Et bien, je suis sûr que là, même à Sainte-Afrique, je ne parle pas à Paris ou à Toulouse, hein, tu demandes à des gens, il y en a qui ne savent pas.
Ouais.
Et ça, en fait, à un moment, c'est très grave, moi, je trouve. Très, très grave. Parce qu'on n'a plus de notion de ce que c'est le vivant, voilà, et puis du coup, derrière, quand t'as plus ces notions-là, c'est la porte ouverte à CL214 et compagnie, qui font plus de mal que de bien, et qui ont aucune notion de cercle vertueux dans l'agriculture, que l'élevage, il sert à faire des cultures, que nous, le blé pour le pain, en fait, il est amendé avec le fumier des brebis, et qu'en fait, tout ça, ça marche ensemble, et que, en fait, le problème, c'est qu'il y a des zones en France où il n'y a que de la culture, d'autres où il n'y a que de l'élevage, et qu'en fait, le but, c'est de mixer tout ça, et que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des rendements sans pesticides, sans agrochimie, quoi.
Ainsi s'achève brutalement cette interview. Merci à Nino pour sa patience, car il a fallu l'interroger 2 fois à cause de problèmes techniques. Cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur le site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.